Vous êtes sur Radio Panique. Vous êtes sur Radio Panique au 105.4 et nous venons d'écouter trois artistes japonais.
La marmite culturelle.
Les gens de Panique.
Machigai.
Tu es arrivé à Panique, Radio Panique, du côté de 1987-88.
Je crois que c'est très exactement fin octobre, début novembre 87.
Eric Georg Herbaut.
En fait, j'étais un grand collectionneur de disques. Complètement dévoré intérieurement par une culpabilité extrême. Il fallait que cette collection de disques serve un jour à quelque chose, que j'ai un alibi pour continuer cette consommation compulsive de disques. En fait, j'ai mis les pieds à l'ULB, j'ai rencontré une personne, deux personnes, trois personnes qui travaillaient à Radio Panique. Donc j'ai réussi à arriver à l'ULB, à entendre parler de Radio Panique avant d'entendre parler de Radio Campus. On m'a dit « Oh, mais c'est pas difficile de faire une émission, il suffit de présenter un projet, etc. » Et je crois qu'en fait, après avoir eu une semaine de scepticisme, j'ai décidé ça en 10 minutes, et puis vram, boum, crac, patatras, j'étais là sur le principe de diffuser, tu t'en souviens, mes petits trésors de la pop japonaise, quoi.
Ça s'appelait, l'émission s'appelait Machigai.
Machigai, ça signifie en japonais « une erreur ». Ce n'en était pas une. Et la première chose qui m'a frappé, c'est que d'abord, de l'extérieur, ça n'était pas un grand bâtiment bizarre et qui annonçait qu'il contenait forcément un haut lieu d'expression culturelle, mais une maison tout à fait normale dans une rue, et puis que tout ça se passait bon gré mal gré sur une table bricolée avec un semblant, à l'époque, de table de mixage, un deck pour restaurant qui assumait le non-stop... En fait, du coup, ça avait un côté moins effrayant. Je crois que ça a aidé au fait que je me suis dit, mais après tout, pourquoi je ne m'y mettrais pas aussi? Peut-être que si je m'étais retrouvé devant un grand studio professionnel, plein de contraintes, avec des tas de maîtres techniciens qui passaient leur temps à me dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, peut-être que j'aurais jamais fait de radio de ma vie. Mais ça avait l'air tellement à la bonne franquette, en fin de compte. Alors, est-ce que j'ai été bien accueilli à Radio Panique? On va dire oui. On ne va pas rentrer dans les détails. Non, mais écoute, il y a eu du bon, il y a eu des bons moments et des moins bons, bah, comme partout, quoi. Je veux dire, mais j'ai jamais été sceptique quant à Radio Panique, même. Je veux dire, à l'époque où je suis arrivé à Radio Panique, je trouvais l'état d'esprit général assez convaincant. Maintenant, ce que les individus font de cet état d'esprit général, peu manchot, tout compte fait. Mais c'est vrai. Ce que j'ai qualifié souvent par après en parlant d'une ambiance vaguement anard, vaguement post-68 tard, vaguement libertaire, vaguement permissif, sans que ce soit forcément martelé, mais que ce soit un petit peu dans le fond de l'air, c'est quelque chose qui m'avait paru assez sympathique.
Panique sympathique.
Panique anarchique. Chapitre 17. Panique, la radio des artistes et des étrangers.
Quelle image se font-ils des radios associatives à Bruxelles et de Panique en particulier?
Ah gogo ra 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 ta 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 ta.
Ah gogo ra 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 ta 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 ta.
Guy Stukens, factotum des radios alternatives.
On a développé tel ou tel aspect. Alors moi je crois que Campus a par exemple un aspect qui me semble très intéressant, c'est de travailler avec l'université, avec l'Institut de journalisme. Et aussi avec toute une série, tous les contacts avec les groupes d'étudiants venant, entre autres, de tous les pays du monde. Ça me semble être quand même une spécificité intéressante. Au niveau de Radio Panique, je vois pour le moment quand même beaucoup de créations et beaucoup aussi d'émissions musicales de création dans toutes les nouvelles tendances, etc. Je crois qu'il y a cet aspect-là, à côté bien sûr d'émissions plus habituelles ou d'émissions faites par des communautés étrangères. Radio Air Libre, je vois plutôt une spécificité qui se marque de plus en plus sur l'information et la culture. À côté de ça, il y a aussi des émissions spécifiques sur tel type de musique, des émissions faites par des groupes issus d'immigration, etc. Mais, donc je vois ces spécificités-là, quoi. Je ne parlerai pas des RZAB où il y a encore Radio 1180, par exemple, qui est un cas tout à fait unique. Une radio qui émet 2 heures par semaine, c'est la plus petite radio de Belgique, et elle émet depuis plus de 20 ans. Hein.
Panique Music.
Bernard Dubuisson, président de Radio Campus.
Panique est évidemment la radio des artistes, hein, c'est clair. C'est une radio qui a beaucoup de contacts avec le milieu artistique, que ce soit théâtral ou écrivain ou même art plastique, ou créateur sonore, on peut le dire. Et donc, c'est le porte-voix, je veux dire, attitré de toute cette mouvance. Et ça donne des choses très intéressantes, bien que pour l'auditeur lambda, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Je dirais qu'il y a ça, et puis il y a tout l'aspect émission pour les communautés étrangères.
Panique artistique.
C'est clair qu'il y a d'un côté les artistes et de l'autre les communautés étrangères, et que parfois le courant ne passe pas très bien entre les deux, et que parfois ils se demandent ce qu'ils font sur la même radio, à mon avis les uns et les autres. Et donc il y a cette ambivalence qui fait que ça donne un produit radiophonique bizarre, mais bizarre dans le sens séduisant, quoi. Hein. C'est pour moi, Radio Panique est une espèce d'ovni dans le ciel bruxellois. Et moi, j'aime bien les ovnis.
Panique-ovnique.
Chaque fois que j'ai tourné le bouton sur Panique, je suis tombé sur Panique, et j'ai appris quelque chose. J'ai trouvé une idée où j'ai été séduit par ce qui passait. Et donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de vraiment très, très créatif.
Panique créatique.
Alors par rapport aux autres, Bécampus est beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus musical aussi, je pense. Il y a toujours une liberté de parole sur campus aussi, mais bon, il y a toujours l'ULB derrière, dont on est un peu une vitrine radiophonique, et donc il faut toujours un peu quand même faire attention à ce qu'on dit. Bon, il n'y a aucune censure. Mais on a ce respect vis-à-vis de l'université qui nous permet de vivre de manière assez confortable. Donc c'est aussi, à mon avis, une des composantes de campus par rapport peut-être à Panique, c'est l'aspect un peu moins bricolé. Quoique, bon, une radio associative reste toujours une radio associative et la technique est toujours approximative. Par contre, Air Libre, bon, ça c'est la radio anarchiste par excellence qui, à la limite, même... refuse de grandir, et pour moi, donc là, il y a quelque chose de, peut-être, je trouve, un peu anti-radiophonique, parce que, enfin, chaque fois que je suis tombé sur Air Libre, j'ai trouvé ça tout à fait inécoutable.
Frédéric Jung, administrateur délégué des sociétés d'auteurs SACD et SCAM.
Bah, moi, l'image principale de Radio Panique que j'ai, c'est la richesse des programmes qui nous sont proposés avec le soutien de Radio Panique, au fond. Ça, certainement, pour moi, c'est ce qui est le plus concret dans ce que je peux percevoir. On constate un accueil de création, un accueil de démarche personnelle très variée. J'ai pas d'idée de ce qu'est l'ensemble de la grille Panique. Je ne sous-estime pas le travail de création d'un public, tout comme un théâtre se crée un public, tout comme un lieu culturel se crée un public par une programmation régulière, etc. Donc je suis tout à fait conscient qu'il y a là une activité, je suis sûr que Panic travaille à cela de façon délibérée. Enfin, ça se voit par ce qui arrive. Mais je n'ai pas d'autre image.
Pour moi, Radio Campus serait ce qui serait le plus proche d'un idéal de radio culturel, mais qui malheureusement n'a pas les moyens d'atteindre cet idéal et qui ne les aura malheureusement, pour des raisons assez médiocres, qui ne les aura probablement jamais, alors que Radio Panique, peut-être que je fantasme, mais je persiste à voir Radio Panique comme quelque chose de beaucoup plus immédiat, réactif, sur le terrain, avec quand même une dimension anarchique et qui ne veut pas forcément s'installer et créer son propre musée autour de soi. Je vois Radio Panique comme quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus dynamique. Enfin, en tout cas dans le désir, parce que dans l'exécution, ça n'est pas toujours ça. Mais je persiste à voir... Oui, je suis resté sur les... En fait, je sais que Radio Panique a beaucoup changé entre le moment où j'y suis arrivé pour la première fois et aujourd'hui où j'y suis de nouveau régulièrement depuis 2 ans. Mais en fait, malgré tous les changements objectifs, l'organisation, une certaine élévation dans le domaine médiatique, j'ai l'impression que ce que j'avais cru capter au tout début est resté à peu près la même chose. Je veux dire, l'âme de Radio Panique n'a pas tellement changé, donc c'est encore une bande de rêveurs post-gauchistes et onctueux. Ça n'a pas tellement changé.
Exécution capitale, fin de siècle, Funk Station, Freaks and Sea, From Beyond.
Les gens de Panique.
Das Grauen. Eric Georg Ehrebaut, artiste.
Décris un petit peu Das Grauen. Ton projet Das Grauen qui a duré plusieurs années, je crois.
Attends, il a duré 36 épisodes et il y avait un épisode tous les 15 jours. Figure-toi qu'à l'époque, oh Dieu sait, j'aimerais retrouver cette fraîcheur. Quand j'ai eu l'idée de faire Das Grauen, je ne m'étais bien gardé d'intellectualiser quoi que ce soit. C'est simplement parti de l'idée que je trouvais... franchement, je trouvais que le fait de passer des disques et puis de dire avant, voilà, c'était un tel qui vous chante un tel, et puis après de dire c'était un tel qui vous chantait un tel, je crois qu'au bout de 6 mois, ça m'a paru complètement inepte. Enfin, je ne le sentais pas, ça ne me parlait pas. C'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à un fantasme de musique idéale, que j'ai été hanté par ces images de flux sonores continus qui sont interrompus par des accidents, mais qui ne s'interrompent jamais. Das Grauen, écoute, comme je ne me sentais pas encore la carrure d'écrire de la fiction radiophonique ou de la préméditer, la démarche de Das Grauen, c'était simple. À l'époque, j'avais lu le bouquin Das Grauen de Hans-Heinz Evers, qui m'avait beaucoup marqué, et d'une certaine façon, en le paraphrasant, c'est-à-dire en ne le lisant pas sur antenne, mais en le suivant chapitre par chapitre, c'est un recueil de nouvelles fantastiques, de le re-raconter selon mon émotion en 36 épisodes à la radio, mais en allant chercher pour exprimer ce que ça exprimait des extraits d'autres bouquins, des débuts d'improvisation, les morceaux de musique qui s'enchaînaient, les premiers scepticismes de certains auditeurs ou de certains membres de Radio Panique. Ce qui m'a amusé, comme je suis quelqu'un d'assez contrariant, ça a peut-être forgé certaines stylistiques. Par exemple, à l'époque de Das Grauen, ce qui m'avait frappé, c'est que dans un premier temps, personne n'a voulu croire que si je passais des disques complètement griffés, foutus en l'air et à la mauvaise vitesse, ça pouvait être tout à fait volontaire dans le but d'exprimer quelque chose, enfin de changer, de jouer sur l'ambiance. Pour certaines personnes, c'était « tu ne devrais pas passer un disque aussi griffé, ça donne mal ». Et je dois dire que ces simples confrontations, ou alors les blancs, on m'a beaucoup fait de remarques sur les blancs en me disant « oui, c'est très bien, mais ce blanc de 30 secondes qui paraissait être un accident ». Alors la première chose, c'était de faire passer une bonne fois pour toutes ces choses pour des actes volontaires et non pas pour des accidents. Et ça, ça a été, peut-être que ça a été la première étape de formation de ce qui aujourd'hui est mon style sonore, je ne sais pas. Mais Das Grauen était aussi instinctif que ça. C'était vraiment de l'action-réaction et c'était très peu concerté. J'écrivais une partition uniquement sur les timings des morceaux que j'utilisais, parce qu'à cette époque, les fonds étaient entièrement en disques ou en morceaux repiqués de films, histoire que ça tienne dans ces 2 heures en 8 chapitres d'un quart d'heure, et ça s'arrêtait exactement là. Il n'y avait pas encore d'idée d'enchaîner les épisodes, de faire vraiment une dramaturgie. Il n'y avait pas encore l'idée que ça puisse être compréhensible. Je fantasmais et je régurgitais librement mon fantasme de l'univers de Hans-Heinz Evers, en me gardant bien de le signaler au début, en le signalant juste à la fin. J'ai refait ça après, quand j'ai créé l'émission Les Nouvelles Hybrides, pour les définir à la base, je me suis aussi servi d'un livre. Et puis à un moment donné, j'ai plus eu besoin de ce genre de support, de faire rencontrer des textes pour trouver un trajet à suivre, parce que je n'arrivais pas à m'autodiscipliner. Mais Das Grauen, c'était terriblement autodiscipliné. Et ça, c'est à la fois l'erreur que j'ai fait à l'époque et la bonne idée, c'est qu'à travers toutes ces contraintes, pour finir, il fallait que je me décale, il fallait que ce soit différent, il fallait que je me libère sonorement, il fallait que je puisse faire les choses qui me parlent et qui me touchent. Et pour finir, la seule chose dont j'avais à m'évader, c'était de moi-même, parce que je m'étais imposé tout à fait gratuitement un carcan absolument insupportable. C'était, tu te souviens, Das Grauen, c'était scène 1, acte 1, durée un quart d'heure, scène 2, acte 2, etc.
Et que personne ne l'oublie.
Est-ce que les têtes à penser vont rester longtemps celles qu'elles sont ? Radio Panique, la radio qui porte bien son nom.